Mobile. Et c'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Le Conseil constitutionnel impose encore un peu d'attente au gouvernement pour étendre le pass sanitaire. Il faudra patienter au moins jusqu'au milieu de semaine prochaine et certaines dispositions pourraient poser problème aux sages. Les autres titres, Alexis.
Les Tunisiens très partagés après la décision surprise de leur président de s'octroyer temporairement le pouvoir exécutif. La crise politique en Tunisie inquiète la France et les États-Unis. Nous irons aussi à Mayotte où le volcan découvert il y a 2 ans pourrait être pourvoyeur de centaines d'emplois. Et puis Clarisse Agbenienou qui concentre tous les espoirs français ce matin aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Les invités de la matinale de France Inter à 7h50, Grégory Allion, le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Incendie, inondation, glissement de terrain, les pompiers sont décidément sur tous les fronts cet été. Mais y sont-ils vraiment préparés? Nous lui poserons la question. Et puis à 8h20, toutes les questions que vous avez toujours voulu poser sur les vaccins, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale et l'invité du grand entretien. Vos questions donc à Alain Fischer, vos inquiétudes aussi, vos observations au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
On en connaît bien le contenu désormais, mais toujours pas la date d'application. Quand précisément le pass sanitaire sera-t-il étendu au restaurant ou encore au TGV? Une certitude, ce ne sera pas avant le 5 août, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine. C'est à cette date que le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, doit se prononcer sur le projet de loi sanitaire. Alors à Matignon, on se dit serein, mais ce ne sera pas non plus une formalité, Maxence Lambrecq. Deux dispositions en particulier pourraient être retoquées par les sages.
La vaccination obligatoire des soignants, le pass sanitaire en tant que tel, ne devrait pas poser de problème aux sages. Mais laisser la main au préfet sur l'accès aux centres commerciaux, ça, cela va trop loin pour le constitutionnaliste Dominique Rousseau.
Il y a un abandon par le législateur de sa compétence au profit de l'autorité administrative. Cet abandon de compétence, en plus, n'est pas encadré, puisque les termes sont flous, caractéristiques, risques, gravité. Et en conséquence, si le Conseil suit sa jurisprudence classique, il n'aura pas besoin d'innover, eh bien, il y a là un fort risque de censure de cette disposition.
Il aurait fallu que la loi fixe un seuil, par exemple, les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Le second risque de censure réside dans la suspension du contrat de travail.
Le licenciement était une sanction manifestement disproportionnée. La suspension du salaire reste disproportionné, est une sorte de licenciement déguisé ou de licenciement retardé au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au droit du travail et à la relation employeur-salarié. Il y a à nouveau un fort risque d'inconstitutionnalité sur cette disposition.
Et ce serait une claque pour le gouvernement qui serait obligé de trouver un autre type de sanction dans la précipitation.
Les explications de Maxence Lambrecq, service politique de France Inter. Et pour ceux qui sont déjà soumis au pass, c'est l'inquiétude. 20 à 50% de fréquentation en moins depuis mercredi dernier dans les parcs d'attractions, selon le président de leur syndicat qui s'exprime ce matin dans Le Parisien. Le dispositif concerne aussi les piscines depuis le 21 juillet. Alors pour pouvoir se baigner sans montrer son QR code, certains Alsaciens ont trouvé l'astuce. Ils traversent la frontière pour faire trempette en Allemagne. C'est le reportage de Bastien Munch à Cork, près de Kiel.
Sur le parking, les plaques d'immatriculation 67 se multiplient. Olivier et Caroline sont venus de Strasbourg à vélo. Depuis la mise en place du pass sanitaire, ils boycottent les piscines françaises.
On ne pourra plus y retourner de toute façon. Donc, après, moi j'ai bon espoir que ça ne dure pas longtemps, que ça soit un passage et puis qu'à l'automne, tout devienne, ça reviendra pas normal.
Du coup, leur fille de 3 ans devra apprendre à nager ailleurs.
C'est vrai qu'elle avait l'habitude d'aller beaucoup à la piscine, donc maintenant elle fera se baigner dans les lacs.
C'est pas la bonne astuce.
Kader, en train de bronzer sur sa serviette.
Les gens ils vont essayer de trouver des pseudo-solutions qui vont amener à rien. Je veux dire, on parle de santé là.
À côté des enfants qui s'amusent dans l'eau, il y a Jérémy qui a déjà expérimenté le pass sanitaire.
C'est pas une contrainte pour nous le pass sanitaire. Je l'ai présenté encore cette semaine à la Kivitsono. Ça va vite.
Je pense qu'ils viennent chez nous parce qu'ils sont moins embêtés.
Florence en train d'étaler son matelas. Elle vit à Offenbourg.
Nous, on préfère rester en Allemagne du coup. Ouais, on va plus en France. Mais on pense que ça va venir à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain. Si les chiffres du Covid augmentent. En Allemagne, ça va être la même chose.
Oui, précisément, si le taux d'incidence du Bade-Württemberg dépasse les 35 cas pour 100 000 habitants, dans ce cas, des tests négatifs seront de nouveau demandés à l'entrée des piscines.
Bastien Munch, France Bleu Alsace, les Alsaciens qui partent donc se baigner en Allemagne. Et de l'autre côté de la France, le masque redevient obligatoire en extérieur sur la côte basque, d'Anglette à la frontière espagnole. Le taux d'incidence dépasse les 400 pour 100 000 dans la région. Au niveau national, à l'hôpital, le nombre de malades pris en charge repasse au-dessus de la barre des 7 000. Près d'un millier sont en soins critiques. Enfin, à l'étranger, le pass sanitaire va bientôt aussi s'imposer aux fonctionnaires new-yorkais. À partir du 13 septembre, la ville exigera de ses policiers, enseignants ou encore pompiers qu'ils soient vaccinés ou porteurs d'un test négatif. Les États-Unis, qui refusent toujours d'ouvrir leurs frontières aux voyageurs internationaux, malgré les demandes répétées des Européens notamment. Face à la propagation du variant Delta, les restrictions sont maintenues pour l'instant, annonce la Maison-Blanche.
Que s'est-il passé précisément le 6 janvier dernier au cœur de Washington?
6 mois après l'assaut sur le Capitole, le Congrès lance aujourd'hui une enquête parlementaire sur cette crise majeure pour la démocratie américaine. Mais ça s'annonce déjà très tendu, car la commission d'enquête ne compte que des détracteurs de l'ancien président Donald Trump. Alors pour les républicains, cette enquête ne peut pas être sérieuse et crédible. Des républicains accusés de boycotter volontairement cette commission par leurs adversaires démocrates. La France appelle à un retour au fonctionnement normal des institutions dans les meilleurs délais en Tunisie. Pour les États-Unis, Tunis doit respecter les principes démocratiques. Voilà pour quelques réactions internationales sur cette crise politique dans laquelle sont plongés les Tunisiens depuis 36 heures maintenant. Avec de nouvelles tensions hier dans la rue entre partisans du parti Ennahda et ceux du président Saïed. Après la décision du chef de l'État, il a suspendu dimanche soir les travaux du Parlement pour 30 jours, limogé aussi le Premier ministre. Alors sur place, on s'interroge, Valérie Crova, passage en force ou solution pour sortir de l'impasse?
En s'octroyant de fait le pouvoir exécutif, le président tunisien a pris de court son opinion publique, qui avait pourtant manifesté dimanche son ras-le-bol à travers le pays. Bader, journaliste indépendant, le confesse, il n'est qu'à demi-surpris.
Je ne peux pas vous dire qu'on attendait un truc pareil, mais ce qui se passe en Tunisie depuis les élections de 2009, c'est un paysage politique chaotique qui a engendré peut-être un passage en force commis par le président de la République.
Un passage en force qui peut aussi inquiéter.
Moi, je pense que le mot d'ordre, c'est la vigilance. La Constitution exige que ces mesures-là prises par le président ne peuvent pas dépasser les 30 jours. Sinon, on est hors Constitution, on est hors la loi.
Et Bader d'ajouter que le président Saïed doit rétablir au plus vite le fonctionnement normal de l'État, paralysé par des mois de blocage en raison des divisions de la classe politique, dont le parti islamiste Ennahda est selon lui en grande partie responsable.
Beaucoup de personnes pensent que c'est un nouvel élan pour le processus révolutionnaire. D'autres personnes disaient qu'il n'y avait pas une autre solution. Les élections, c'est pour 2023, donc on ne peut pas rester à ce niveau de chaos.
Bader en est convaincu, c'est une nouvelle page de l'histoire de la Tunisie qui s'ouvre.
Valérie Crova, 2 engins incendiaires lancés cette nuit contre l'ambassade de Cuba à Paris, dans le 15e arrondissement de la capitale. Dégâts mineurs selon les pompiers, pas de revendication pour l'instant, mais La Havane dénonce une attaque terroriste et pointe la responsabilité des États-Unis. Après Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, c'est le 3e candidat officiellement déclaré à droite, Philippe Juvin, médecin et maire de la Garenne-Colombes en région parisienne, annonce ce matin dans le Figaro se lancer à son tour dans la course à l'Élysée via la primaire de la droite. Le dérèglement climatique au menu du 3e jour de visite d'Emmanuel Macron en Polynésie française. Le chef de l'État sur l'archipel des Tuamotu ce matin, il y a annoncé notamment un programme de 50 millions d'euros pour la construction d'abris anticycloniques. Et dans une autre collectivité d'outre-mer, Mayotte, c'est un volcan qui inquiète depuis sa découverte il y a 2 ans maintenant. Situé à 3500 mètres de profondeur dans l'océan Indien, il est toujours en activité sous étroite surveillance scientifique. Inquiétude, oui, mais aussi opportunité potentielle pour l'économie du département. Selon les élus locaux, cette trouvaille géologique pourrait créer des centaines d'emplois à terme, Yann Gallic.
Près de 17 millions d'euros ont déjà été débloqués pour étudier ce volcan et évaluer les risques éventuels. Plusieurs missions océanographiques ont été menées au large de Mayotte. Et dans les prochaines années, ces recherches devraient permettre de créer de nouveaux emplois. La physicienne Nathalie Feuillet a dirigé la mission scientifique qui a découvert ce volcan sous-marin.
C'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre dans le domaine de l'océanographie, avec des navires. Et sur ces navires, il y a des gens qui sont en cuisine, il y a des gens qui sont dans les métiers de l'hôtellerie, des ingénieurs et des techniciens électroniques, mécaniques. Bien sûr, il y a les chercheurs aussi et il y a énormément d'opportunités de ce côté.
Aujourd'hui, Mayotte veut miser sur son volcan pour développer toute une économie en lien avec la mer, explique Saïd Hachim, géographe au conseil départemental.
Mayotte a validé récemment sa stratégie économie bleue. Et donc, l'avenir est dans la mer. C'est peut-être des projets d'ingénierie qui vont travailler dans les robots de demain. C'est aussi des gens qui vont inventer des outils ou des opérateurs touristiques qui vont imaginer une façon d'aller explorer ce volcan-là.
Selon Saïd Hachim, des centaines d'emplois pourraient être créés à Mayotte, avec de réelles perspectives d'avenir pour les jeunes dans un département où plus de la moitié de la population a moins de 18 ans.
Yann Gallic pour les explications. Une force volcanique, bien c'est tout ce qu'on souhaite à Clarisse Agbegnénou aux Jeux Olympiques de Tokyo. La judokate française en quête ce matin d'un premier sacre olympique. Xavier Monferrand, vous êtes à Tokyo pour France Inter. La porte-drapeau tricolore vient de se qualifier pour la demi-finale.
Ouais, c'est plus qu'une qualification, Alexis. C'est un rendez-vous avec le destin, son destin pour Clarisse Agbegnénou. Et pour l'instant, elle est à la hauteur de ce rendez-vous après deux combats. Un premier expéditif, un deuxième un petit peu plus compliqué, mais franchement, pas beaucoup plus dur pour Clarisse Agbegnénou. Désormais, les choses sérieuses commencent parce que Clarisse Agbegnénou, c'est un peu la patronne du judo français. La chef de file avec Teddy Riner, évidemment. 5 fois championne du monde. 5 fois championne d'Europe. Mais vice-championne olympique à Rio. Elle court derrière cette médaille d'or, ce titre olympique ultime qui lui manque à son palmarès. Elle a déjà le plus beau palmarès du judo français, mais elle veut cette médaille d'or et pour l'instant, eh bien, elle est en phase avec ce destin qui l'attend. Sa principale rivale, la Slovène Tina Tersteniak, a eu le plus grand mal à se qualifier, mais elle est là aussi en demi-finale, dans l'autre demi-finale, en face de celle de Clarisse Agbegnénou qui sera face à la Québécoise Catherine Beauchemin-Pinard. Si les deux l'emporte, elles se retrouveront en finale pour la revanche de Rio il y a 5 ans. Et c'est tout ce qu'on souhaite à Clarisse Agbegnénou de prendre sa revanche.
Merci Xavier, on va suivre cela avec vous en direct de Tokyo. Et puis une surprise à l'instant en tennis, l'élimination de la japonaise Naomi Osaka dès les 8e de finale. Et soudain surgit face au vent le vrai héros de tous les temps, Bob Moran contre tout chacal. Alors, je vais pas la chanter, mais ça vous dit peut-être quelque chose, bah, Karine. Carrément. La chanson d'Indochine, bien sûr. Bob Moran, le héros au nerf d'acier, personnage de roman d'abord à partir des années 50, puis de bande dessinée. Eh bien, on a appris la mort de celui qu'il avait inventé, l'écrivain belge Henri Verne. Il avait 102 ans. Et voilà comment il racontait la naissance de Bob Moran.
J'avais évidemment tout ce goût du céréal. C'était une chose répétitive qui était indispensable parce que le public aime bien qu'on lui enfonce toujours le même clou dans la tête. C'était peut-être Sherlock Holmes et Watson, mais c'était surtout Don Quichotte et Sancho Panza. D'un côté, Don Quichotte, qui est Bob Moran, qui se lance contre les moulins à vent. J'en ai fait, moi, un costaud, parce que finalement, dans un roman d'aventure, ça fait pas de mal. Bon, la guerre venait d'être finie, il y avait les héros de la RAF. Bon, j'ai créé mon personnage. D'abord, héros de la RAF. Comme je risquais toujours de répéter la même chasse au trésor, je me disais, bon, je vais me répéter beaucoup. J'ai commencé à faire des trucs de science-fiction, à faire du policier, à faire du fantastique, et j'ai fait tout un mélange.
Henri Verne, chez nos confrères de France Culture. Voilà, mélange de science-fiction, de fantastique, de policier. C'était donc la recette pour Bob Moran.
Quel programme. Merci Alexis Morel, on vous retrouve à 9h. À suivre, le Zoom de la rédaction.